Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 4 de ce... tout va bien, tout commence très très bien. Je me sens, on dirait que je vais animer du hockey présentement. Alors, vous écoutez sur réception avec les collaborateurs habituels. Non, on est à retour en force, bien évidemment. Et panel légèrement écourté cette semaine, mais c'était quand même un grand plaisir que j'accueille Yoann Carrière, Vincent Orellana Pépin et Pierre-Luc Mongeon. Bonjour, messieurs. Est-ce que on va commencer par Yoann? Yoann, ça va bien?
Ça va très bien. On va expliquer le lapsus à nos auditeurs. Étienne a écrit dans le titre du broadcast épisode 4 de surréception au lieu d'épisode 4 de retour en force, d'où le manque, si on veut, le petit peu. Ça s'est pas bien passé dans sa tête et donc pourquoi on a fait une erreur.
Je nuancerai un peu, ça va quand même bien.
Oui, mais pendant une fraction de seconde, je pense, ça a été moyen.
Une petite absence, comme on dit.
Ah, c'est ça, exactement. Tout comme Thomas Lafond, là, qui est absent aujourd'hui d'ailleurs.
Oui, ben j'y allais. C'est sûr que oui, par obligation académique, des fois, faut rater quelques épisodes du podcast. Mais on a quand même Vincent, a.k.a. Le Banquier. Vous pouvez voir son nom si vous êtes abonné à notre Patreon. On est live sur YouTube. Donc, Vincent, ça va bien?
Bonsoir, ça va bien, toi?
Ah oui, ça va très, très bien. Merci. Content que tu sois parmi nous. Et Pierre-Luc Mongeon, bonjour.
Bonjour, Étienne.
Ça va bien?
Ben, toujours. Et toi?
Oui, ça va très, très bien. Grosse semaine en vue. On a eu une grosse semaine à l'actualité sportive et on commence ce retour en force avec ça fait longtemps que je n'ai pas animé. Avec les Blue Jays de Toronto qui se sont offerts les services de plusieurs renforts.
Oui, effectivement. Là, donc, si vous avez suivi l'actualité du baseball, là, vous avez sans doute vu que l'un des plus gros noms sur le marché des joueurs autonomes n'est plus disponible. Donc, George Springer, qui a signé un contrat de 6 ans avec les Blue Jays de Toronto à 150 millions de dollars, le plus gros contrat jamais offert dans l'histoire par les Blue Jays à un agent libre. Et ça, c'est une excellente nouvelle là, pour les Blue Jays de Toronto parce que George Springer, oui, un certain apport offensif, mais ce n'est pas lui qui va venir sauver l'offensive des Blue Jays. Là, essentiellement, pour vous mettre en perspective, là, les trois voltigeurs l'an dernier ont eu des meilleures stats offensives que George Springer. Donc, c'est un ajout intéressant, certes, mais c'est surtout pour ce qu'il apporte défensivement que c'est une acquisition intéressante. On le sait, là, l'année dernière, les Blue Jays, ça n'a pas toujours été facile là, défensivement, particulièrement au champ centre. En fait, depuis que Kevin Pillar est parti, il n'y a personne qui fait le travail au champ centre adéquatement. Là, on amène Springer, donc ça va être un ajout très important et ça permet également d'aller combler le poste de frappeur désigné également. Là. Donc, on peut prendre un de ceux qui évoluait à l'arrière-champ. Donc, dans ce cas-ci, ça risque fortement d'être probablement Randall Grichuk qu'on va pousser au poste de frappeur désigné. Il y avait des rumeurs là, comme quoi on aurait pu également aller chercher Michael Brantley, ce qui aurait été une acquisition très importante qui aurait permis d'avoir un des meilleurs frappeurs désignés dans le baseball majeur. Finalement, ce n'est pas arrivé, mais Springer amène quand même une option intéressante et permet de vraiment stabiliser la défensive de cette équipe-là. Un autre problème qu'on avait, par contre, pour les Blue Jays, c'est au niveau des lanceurs, notamment dans l'enclos des releveurs. Il manque encore de profondeur. Il manquait surtout de le gros releveur, le closer, comme on dit en anglais, qui peut rentrer dans le match en 9e manche, puis aller chercher les 3 retraits dont tu as besoin pour finir le match. Et là, on est allé chercher un des meilleurs à cette position-là en Kirby Yates, qui est facilement... dans le top 10 des releveurs dans le baseball majeur, moi, je le vois même là, top 7, peut-être même top 5. Là. C'est une très grosse acquisition qui passe un petit peu sous le radar en raison du nom qu'est George Springer, mais ça vient boucher un immense trou qu'on avait chez les Blue Jays. Par contre, pour Toronto, il manque encore d'éléments importants avant qu'on puisse compétitionner, notamment avec les Yankees de New York qui sont dans la même division. Donc, c'est encore une compétition serrée Et donc, les Blue Jays ne sont pas, là, même avec ces acquisitions-là, la meilleure équipe dans leur division. La raison est simple, il manque de profondeur chez les partants. À part Hyunjin Ryu, qui était dans nomination pour le Cy Young l'année dernière, les Blue Jays n'ont pas de partant solide de qualité, surtout qu'on n'a pas, renouvelé le contrat de Taiwan Walker en ce moment, toujours sans contrat. Est-ce qu'il va revenir à Toronto? Il y a des rumeurs également qu'on pourrait aller chercher James Paxton, justement, des Yankees. Si, mettons, les Blue Jays trouvaient le moyen, par magie, de signer Walker et Paxton, là, ce serait une discussion différente. Il faudrait rajouter peut-être un petit peu de qualité dans l'enclos des releveurs, mais c'est quand même une équipe là, qu'il ne faut pas oublier est très jeune. On a surtout à l'avant-champ, ça n'a pas beaucoup d'expérience. Et c'est là que d'aller chercher un joueur comme George Springer, vétéran de plusieurs saisons, participé à 2 séries mondiales, en a gagné une. Bon, dans toute la controverse qui entoure cette victoire-là, peu importe, il l'a gagné, il s'est rendu jusque-là. Et ça va faire un excellent mentor pour les Vladimir Guerrero, pour les Beau Bichette, pour les Yuli Gurriel. Tout ce monde-là, c'est un excellent élément qui est ajouté à la formation des Blue Jays pour plusieurs raisons. Les Blue Jays ne seront pas aussi compétitifs qu'on le voudrait dès cette année, mais ça regarde bien là, pour les prochaines saisons.
Oui, tu dis justement, au niveau compétitif, on n'est pas encore au niveau où on était il y a quelques années, là, où les Blue Jays ont connu quand même de très beaux moments. On est à combien de joueurs, à peu près, selon toi? Tu as nommé quelques pistes potentielles également, mais ça prendrait quoi aux Blue Jays? Qu'est-ce que ça prendrait? C'est quoi le grand chantier présentement pour que les Blue Jays deviennent une équipe très compétitive dans le haut du tableau de la MLB?
Il ne faut pas oublier que les Blue Jays jouent dans une division qui est somme toute mauvaise. Là. Je veux dire, les Orioles de Baltimore et les Red Sox de Boston n'auront pas là, une saison particulièrement intéressante cette année. Puis les Rays de Tampa Bay, ça va être moins fort. Donc, à part les Yankees, les Blue Jays ont pas mal le terrain ouvert là, au sein de leur division et vont se placer donc en position intéressante pour faire les séries. Donc ça, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Mais pour aller chercher un titre de division ou un titre de même à se rendre à la série mondiale. Mais comme je le disais, c'est au niveau des lanceurs qu'il y a un manque. Dans la rotation de partant en ce moment, il y en a un qui est vraiment dominant. Ça, tu as un bon lanceur, mais tu regardes les grosses équipes dans la MLB, là, les rotations majeures vont avoir au moins 2, sinon 3 lanceurs dominants, partants de qualité, lanceurs étoiles. Là, les Blue Jays en ont un qui ne rajeunit pas non plus. Ils pourraient en avoir, mettons, 2 autres corrects, ce qui aurait une rotation quand même plus intéressante. Parce qu'à l'arrière-champ, là, c'est 7 et il n'y a plus de problème là. On a Teoscar Hernandez qui, s'il peut continuer sur sa lancée de l'année dernière, il n'y aura aucun problème à l'arrière-champ. À l'avant-champ, ben ça, il faut attendre l'expérience. Guerrero Junior, Beau Bichette, comme je le mentionnais tantôt, ça a 21-22 ans, ça là, c'est pas tout de suite que ça va être là, les joueurs dominants. Donc, si on est capable d'aller chercher peut-être 1 ou 2 lanceurs, ben dans 2 ans, là, on pourrait avoir une formation assez impressionnante chez les Blue Jays.
D'accord.
L'important là-dedans, et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que cette nouvelle acquisition-là, Kirby Yates, lance une balle papillon?
Je suis pas un. Kirby Yates, là, il faut le dire, il était avec les Padres de San Diego avant. Les Padres, je les ai jamais vraiment suivis. Je l'ai jamais vraiment vu jouer. Moi, ce que je sais, c'est qu'au niveau des stats, Kirby Yates, c'est un excellent élément. Au niveau de qu'est-ce qu'il lance, par contre, c'est lancé de prédilection. Je pourrais pas te répondre.
La raison pour laquelle je te pose cette question-là, c'est que. Une balle papillon qui était lancée par R.A. Dickey, qui a joué pour les Jays. À mon avis, c'est un des top 3 actes les plus sensuels dans le sport. 1 étant la balle papillon, 2 étant une spirale parfaite de Brett Favre, 3 étant un knockout de Mike Tyson. Fait qu'une balle papillon, il y a rien, très peu de choses de plus divertissantes et d'excitantes que ça. Juste
ouais, en effet.
La petite hésitation de savoir où elle va aller, au bas, droite, à gauche, il y a rien de plus excitant que ça dans le
baseball. C'est pour ça que je serais très surpris que ce soit son lancé de prédilection, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui lance ça.
C'est ça.
R.A. Dickey, c'était spécial, ça. Là.
Vincent,
Yes, sir.
On connaît maintenant les deux acteurs qui se retrouveront à Tampa Bay pour le Super Bowl. Je te laisse nous en parler avec plus de détails.
Je dois d'abord admettre mes torts et je vais faire mon mea culpa en admettant que pendant des années et des années, pendant 15 ans, je me moquais des fans de LeBron qu'il suivait à toutes les équipes où il allait. C'était des fans des Cavs, c'était des fans du Heat, c'était des fans des Cavs, c'était des fans des Lakers. Donc, il le suivait, puis il devenait des fans de toutes les villes où il allait jouer. Et je riais d'eux, je disais que vous êtes des faux partisans, vous êtes des bandwagoners, comme on dit en anglais. Puis j'en suis un maintenant avec Tom Brady. Je ne sais pas si vous pouvez voir mon chandail, mais c'est oui. Une photo de Brady déguisé en Jésus avec une chèvre dans les mains.
Wow, tout est là.
Fait que j'ai fait faire custom. Parce que j'étais le plus grand fan de Brady, puis je me disais que j'allais jamais le suivre s'il partait, et c'était un mensonge. Je suis maintenant un énorme partisan des Tampa Bay Buccaneers, et ce qu'ils ont fait aux Green Bay Packers hier, c'était absolument incroyable. On parle d'une victoire qui semble être serrée au niveau du pointage, mais qui est en fait beaucoup plus convaincante que le pointage. Je te vois que tu hoches la tête, Yoann Carrière.
Je voulais casser quelque chose hier.
Pourquoi? Dis-moi pourquoi.
Ben parce que, man, bon, moi, je suis pas le plus grand fan de Tom Brady, mais je suis surtout un partisan des Packers. Puis là, je regardais ça, puis comme j'ai tweeté, c'est vive une existence de déception que tu suives cette équipe-là.
C'est hier. En regardant, ben, je pense que les partisans des deux équipes hier ont vécu pas mal tout le spectrum au complet des émotions en regardant ce match-là. L'horreur, la joie, l'extase, la tristesse, ils sont passés par tous et chacun. Puis la raison pour ça, c'est que les deux carrières n'ont pas très bien joué. Ils ont lancé des interceptions qu'on pourrait dire assez ridicules. C'était des lancers qu'il ne fallait pas faire. Mais l'important, puis la raison pour laquelle les Bucs ont gagné et ont remporté ce match-là, ils vont représenter la Nationale au Super Bowl, c'est leur défensive. Et leur défensive, on pensait qu'elle était construite sur la vitesse, mais maintenant, on en a la confirmation. Les Packers, c'est une équipe rapide, construite avec une offensive qui progresse latéralement, horizontalement. Donc, ils essaient le plus possible de jouer proche des lignes de côté pour utiliser et pour profiter de la vitesse de leurs receveurs et de leurs porteurs de ballon. Les Buccaneers, avec des linebackers comme Lavonte David, comme Devin White, puis des joueurs comme Antoine Winfield puis Murphy Bunting, qui sont extrêmement rapides eux aussi, sont parfaitement construits pour contrer cette attaque des Packers. Puis je suis pas mal sûr que c'était pas mal la seule équipe qui avait le personnel nécessaire dans la Ligue cette année pour battre les Packers. Et d'où Jésus, Dieu merci, ce fut fait hier. Et mon Dieu qu'on a hâte de les voir au Super Bowl dans deux semaines. Pas toi, Yoann, et je me sens pas mal pour toi pour deux secondes.
Il y a eu une deuxième rencontre autre que les Packers contre les Buccaneers.
Oui, et ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu pendant le match précédent des Chiefs, c'est que l'attaque des Kansas City Chiefs est absolument inarrêtable. Ils ont 12 joueurs, Travis Kelce, qui est un receveur approché, puis Tyreek Hill, qui est un receveur éloigné, qui sont probablement les meilleurs à leur position. Travis Kelce, l'affaire avec ce joueur-là, c'est que la raison pour laquelle il est inarrêtable, c'est que c'est une combinaison parfaite de vitesse, d'agilité et de force. Il doit faire 6-4, 6-5, rapide comme le vent. Donc, si la défensive adverse met un joueur plus petit pour matcher sa vitesse, il va juste, comme au basket, il va lui tourner son dos, le box out, attraper une balle qui va être lancée en hauteur. S'ils mettent un joueur plus costaud, moins rapide sur lui pour contrer sa taille, sur la ligne de mêlée, il va faire un three-step burst. Il va faire trois pas, partir de côté, puis parce qu'il va être plus rapide que l'autre joueur, il va attraper la balle wide open à droite ou à gauche. Ils sont impossibles à arrêter tout seuls. Et maintenant qu'ils ont le meilleur carrière de tous les temps qui leur lance le ballon, ils sont impossibles à arrêter en équipe. Et leur entraîneur, Andy Reid, le sait. Ça va être un match extraordinaire au Super Bowl. Et je pense que l'histoire la plus intéressante de ce match-là, ça va être le passage de la torche. Si Brady perd, la torche va officiellement être passée à Mahomes comme le meilleur joueur dans la ligue et comme l'aspirant le plus sérieux au trône que Brady occupe depuis qu'il a gagné son 4e Super Bowl contre les Seahawks. Alors, ça va être bien intéressant de voir ça. Ça va être excitant de voir ça. Et on a bien hâte de voir ça le premier lundi de février.
Donc, dans deux semaines, exactement,
oh,
en fait.
Ah oh, oui.
Là, on va avoir le temps d'en reparler en masse, en masse. Mais Vincent, je te demande de te mouiller. J'ai besoin d'une mini-prédiction, le sommaire sur qui devrait remporter le Super Bowl entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Chiefs de Kansas City.
Qui devrait l'emporter? Ben, c'est les Chiefs qui ont la meilleure équipe. Mais historiquement, il ne faut jamais parier contre Brady dans les playoffs. Historiquement, ce qu'on réalise et ce qu'on a réalisé au cours des 20 dernières années, c'est que Tom Brady, lorsque vient le temps de délivrer la marchandise dans les matchs éliminatoires, est pas battable. Et j'ose espérer que ça va être la même chose dans deux semaines. Alors, je pense que les Buccaneers de Tampa Bay, première équipe, en passant, qui va jouer un Super Bowl à la maison, ce qui est un fait très intéressant. C'est le 56e Super Bowl, si jamais arrivé. Je pense qu'ils vont l'emporter par un botté, donc par trois points ou moins. Puis ça va être incroyable.
Tu as parlé de la semaine dernière, là, tu parlais de joueur de basket qui avait de la difficulté qui mentalement à effectuer une certaine action.
Yannis, ouais.
Au moment d'aller dans l'urinoir également. On dirait que c'est tout l'inverse de Tom Brady. Quand c'est serré, quand il faut être clutch, ben, Tom Brady est incapable de se défiler.
Tom Brady pourrait fermer l'urinoir les yeux fermés de la porte de la salle de bain. Tom Brady, c'est... Il n'a pas eu une saison régulière particulièrement incroyable, mais comme tu dis, lorsque vient le temps de livrer la marchandise, lorsque la pression est à son summum, à son apogée, il n'y a personne de meilleur que lui. Il n'y a jamais eu personne de meilleur que lui et il n'y aura jamais personne de meilleur que lui.
C'est la force des grands athlètes de jouer sous la pression. Pierre-Luc, un autre grand athlète qui est passé de joueur à entraîneur et qui, bon, à ses débuts en première division anglaise, c'est un peu cassé les dents.
Ouais, de joueur à entraîneur, mais maintenant sans emploi. Frank Lampard, qui était l'entraîneur de Chelsea en Premier League, ben, il se ramasse sans emploi. Il a été congédié ce matin. Puis c'est pas tant surprenant parce que connaissant Chelsea, on s'attend toujours à les voir plus haut. Là, présentement, on regarde le classement. Chelsea, 9e position à 29 points. C'est quand même respectable vu que c'est quand même un classement très serré. Ceci étant dit, avec les attaquants que tu es allé chercher cet été comme Kai Havertz, tu ne dois pas te ramasser aussi bas que ça. Tu devrais te ramasser normalement au minimum dans le top 5. Donc, est-ce que c'est une surprise de voir Frank Lampard se faire congédier? Pas du tout. Puis, entre toi et moi, si tu veux vraiment avoir une équipe compétitive, ça passe par un entraîneur qui a beaucoup plus d'expérience que Frank Lampard, malheureusement.
Oui, bien d'accord. Puis, tu sais, Chelsea a beau avoir été chercher autant de joueurs. On se posait la question là, au 3-Lyon cet après-midi. On a débriefé rapidement. Puis, oui, Lampard n'a pas beaucoup d'expérience. Il a passé une belle année ou deux à Derby County en Division 2. Il a failli amener l'équipe en Premier League. C'est difficile parce que là, Chelsea avait été frappé d'une interdiction de transfert l'année dernière, donc on pouvait pas aller chercher d'autres joueurs, puis Frank Lampard a fait jouer beaucoup les jeunes joueurs, puis ça fonctionnait quand même bien, les Tammy Abraham, les Callum Hudson-Odoi, les Fikayo Tomori qui avaient commencé la saison, et Mason Mount qui est un joueur élite maintenant, puis là en deuxième année, il y a Roman maintenant qui peut aller aligner l'argent pour aller chercher des nouveaux joueurs, a dépassé une affaire de 300-400 millions sur 6 titulaires. Mais t'as beau mettre le meilleur entraîneur au monde, tu peux pas créer un collectif avec comme plein de morceaux de casse-tête que tu sais même pas si ça va fonctionner. Donc, je pense que c'est là que ça a fait défaut du côté de Frank Lampard. Puis quand on connaît la patience des dirigeants de Chelsea, ben, c'est ça que ça a donné. Peux-tu nous parler du potentiel remplaçant de Frank Lampard?
Ouais, c'est ça. Ben là, c'est des rumeurs. Hein. C'est juste les rumeurs. C'est
persistantes, là, quand même.
Ouais, c'est ça. C'est pas tant une surprise. Là, on parle de Thomas Tuchel. Là, c'est probablement un des meilleurs entraîneurs qui n'a pas d'emploi présentement. C'était lui le dernier entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est lui qui s'est rendu en finale de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il va être capable d'apporter quelque chose à Chelsea? Je pense qu'il a vraiment l'expérience pour le faire. Puis, tu sais, quand on regarde les joueurs, tu sais, Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell, qui sont des trois derniers joueurs qui ont été recrutés au sein de l'équipe, t'espères qu'il va pouvoir faire quelque chose pour eux, puis pour les aider. Puis, tu sais, on parle de Havertz et Werner, ben, c'est des joueurs allemands. Et puis, où est-ce que Thomas Tuchel a entraîné beaucoup dans sa carrière, c'est en Allemagne. Donc, est-ce que ça va créer une chimie avec l'entraîneur? Est-ce que ça va les aider à potentiellement intégrer le jeu puis être vraiment des attaquants qui vont être déterminants? Je l'espère. Si c'est vraiment Thomas Tuchel qui rentre, ben je l'espère que ça va fonctionner.
Vincent?
Est-ce que le carrousel des postes vacants d'entraîneur-chef au soccer est similaire à celui dans la NFL? C'est-à-dire que c'est un boys club. T'sais, c'est tous des gars qui se connaissent, c'est des gars qui sont amis. Puis ces clubs-là recyclent les entraîneurs qui sont fait congédier autre part, puis font juste en prendre d'autres. Puis il n'y a pas de sang nouveau. Il n'y a pas d'équipe qui prenne des chances sur des jeunes up-and-comers. Ils font juste recycler les entraîneurs qui ont été congédiés en quelque part d'autre.
Ouais, en partie oui, en partie non, parce que tu as toujours besoin d'entraîneurs. Tu as toujours des entraîneurs qui vont briller dans des plus petites équipes, dans des plus petites divisions, qui vont se ramasser sans emploi pour des raisons parfois obscures. Ceci étant dit, les gros noms, souvent, quand ils perdent leur emploi, ils vont se ramasser dans une autre grosse équipe pour aider le club. Donc non, c'est pas tant une surprise qu'on pense à Thomas Tuchel, puis tous les entraîneurs qui se ramassent libres, c'est sûr que peu de temps après, là, ils se ramassent avec une équipe de calibre.
C'est lequel l'entraîneur jeune, un jeune entraîneur up-and-comer, un jeune entraîneur excitant que toi,
yeah, t'aimerais voir? Frank Lampard.
<C'est ça. Oups. rire> Un autre que tu aimerais voir accéder aux ligues majeures? Hein?
Ben, l'année passée, je t'aurais dit Thierry Henry.
Ouais. Mais c'est ça aussi. Je pense que chez les gros clubs, il y a deux types d'entraîneurs. Il y a les super entraîneurs ou des gars qui ont des gros CV comme les Thomas Tuchel qui vient d'arriver à Chelsea. Mourinho, exactement. Mais tu as également les gars de la maison. Donc, Frank Lampard, c'est une légende de Chelsea. C'est un des plus grands joueurs de l'histoire de Chelsea. On s'en va chercher parce que, bon, il y a une grogne chez les partisans. Puis en allant chercher cet entraîneur-là qui n'a pas beaucoup d'expérience, bon, on le ramène à la maison. Puis on pense que vu qu'il connaît la maison, ça va peut-être fonctionner un peu plus. Ça a fonctionné dans le cas de Zidane. Mais Zidane a passé beaucoup d'années dans la Castilla, l'équipe jeunesse du Real Madrid. Ça n'a pas fonctionné avec Thierry Henry, qu'on a ramené à Monaco parce que bon, on a brûlé les étapes. On a brûlé les étapes également avec Frank Lampard. L'entraîneur actuel de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, c'est un ancien de la maison. Ça a pris énormément. Tu sais, je pense qu'il coachait en Norvège là, avant d'arriver du côté de Manu. Là, il n'avait pas fait énormément de classe. Ça a pris beaucoup de temps. Là, ça fonctionne. Donc, il y a comme deux types de managers. Puis Chelsea a décidé d'y aller avec les gars de la maison. Ça ne fonctionne pas. On y retourne avec les superstars.
Ça fonctionne rarement. Là, puis vite fait, il y en a un que je pense, vite fait de nom, là, qui entraîne à la maison. C'est Andrés Pirlo. Puis ça ne va pas nécessairement très bien pour la Juve. On s'attend à ce que la Juve domine la Serie A, mais bon, la Serie A change quand même rapidement. Puis ouais, là, c'est plus la même ligue que l'année passée, mais Andrés Pirlo devrait normalement amener la Juve au top 1. Est-ce que ça va se ramasser le même scénario que Frank Lampard? C'est ce qu'on va voir.
Il y a tout de même la meilleure chevelure dans la ligue. C'est une des meilleures chevelures au monde. Ses cheveux sont absolument incroyables.
Mais oui, absolument. Puis il avait la capacité de ne pas défaire sa peignure quand il joue au New York City FC. Donc, puis dernier truc, un entraîneur qui présentement ne brûle pas les étapes et qui va tout arracher au moment où il va arriver en poste dans son équipe de cœur, c'est Stephen Gerrard, qui présentement est au Celtic en Écosse, qui brûle tout ce qu'il a brûlé là-bas, n'est pas pressé. En plus, là, il y a Klopp, donc je pense pas que Klopp va quitter Liverpool d'ici un an ou deux, même si présentement. Mais je pense pas qu'il va quitter. Donc, je pense que le prochain, c'est Steven Gerrard, mais il va avoir fait ses classes dans des championnats plus bas. Il va avoir fait qu'est-ce qu'il a à faire, puis ça va être un grand entraîneur, à mon avis, à cause que, justement, il n'a pas brûlé les étapes comme Thierry Henry ou Frank Lampard.
Hey, tu sais, je suis vraiment nul en termes de connaissances de soccer. Là,
est-ce que c'est parce que tu es fan de West Ham?
Ben, il y a ça, mais tu sais, je veux dire, je ne sais pas, moi, quand est-ce que ces gars-là ont pris leur retraite, whatever, mais ça fait comme 2-3 semaines, là, on parle de, tu sais, Lampard, Gerrard, Rooney, Pirlo, oui. Tous des gars qui, quand moi, j'ai commencé à m'intéresser au soccer avec FIFA World Cup 10 sur la Wii, c'était tous des gars qui jouaient. Fait que moi, c'est les seuls joueurs que je connais, mais là, ils jouent plus. Genre,
ça pourrait les...
Ça me vieillit, je trouve. Tu remarques que ça fait comme 11 ans de ça. Là, c'est
tous des gars qui ont joué à MLS également, mais tu sais, qui jouent à MLS il y a 4 ans. Là, c'est tous des gars qui ont pris leur retraite très, très, très rapidement. Ouais.
J'ai pris un coup de vieux quand Rooney a pris sa retraite. Là, il me semble que c'était comme un poignard au cœur. J'ai grandi en regardant Wayne Rooney, fait que de le voir prendre sa retraite quand même assez jeune.
Oui, ouais. Ben ça, faut s'habituer, s'habituer les amis, parce que si on va le vivre.
Si on est un fan de Zlatan, parce qu'il ne prendra jamais sa retraite.
Il va mourir sur le terrain, Zlatan. Petite parenthèse rapide sur la Fédération haïtienne de football. J'ai une mini-nouvelle, ça fait des semaines en fait, des mois que je parle de cette saga-là, de ce qui s'est passé avec Dadou Jean-Bart. Je reviendrai pas sur les détails, mais ce que je veux dire, c'est que la FIFA a nommé son comité de normalisation là, qui est supposé être là pour les deux prochaines années. Et il y a un nom connu de la sphère médiatique et non sportive, de la sphère québécoise et canadienne, en Michael Jean, qui est une ancienne journaliste de Radio-Canada, ancienne gouverneure générale du Canada et tout récemment secrétaire générale de la francophonie à l'ONU. Donc, une femme politique, une ambassadrice bien connue, qui est née justement à Port-au-Prince en Haïti, donc qui connaît assez bien le climat là-bas. Bon, dans toute cette foulée d'histoires de scandales sexuels avec la Fédération haïtienne. Au début, bon, Pierre-Luc, quand tu me l'as envoyé, là, puis je pense que beaucoup de gens là, qui se posaient la question pourquoi Michael Jean, je pense que de nommer une femme de la maison qui ne connaît pas nécessairement le sport, je crois que c'est pas une si mauvaise idée que ça de la mettre à la tête de la Fédé. C'est pas, elle n'est pas seule, ils sont quatre à gérer ça, mais c'est quand même un gros mandat que Mme Jean reçoit de redresser la barque de la Fédération haïtienne de football. Mais je pense que c'est un très, très bon move de la part de la FIFA d'aller chercher Mme Michaël Jean pour gérer la Fédération haïtienne de football. Vincent, est-ce que tu veux, on dirait oui, que oui.
Je souhaite la meilleure chance du monde, puis j'espère qu'elle va réussir dans son nouveau rôle. Mais comme tu dis, Faudrait pas que le nouvel occupant de ce poste-là ait un temps soit peu d'expérience au niveau de gérer des équipes de soccer ou des fédérations de soccer.
Ils sont
je comprends quatre... que c'est un job de cadre, mais il faudrait avoir de l'expérience en la matière, non?
J'ai pas le nom des trois autres personnes qui sont avec Michael Jean. J'ose croire qu'il y en a au moins une ou deux personnes là-dedans qui ont un bon background de gestion sportive, de gestion de soccer à tout le moins. Mais tu sais, je pense que au moins d'avoir une femme, surtout dans des cas comme ça, même des femmes noires nées à Port-au-Prince, il n'y en a pas énormément qui pourraient aller gérer la Fédé, qui connaissent très, très bien le soccer, qui a un background en tant qu'ambassadrice comme Michael Jean l'a. Donc, je crois que c'est, oui, faudrait que parmi les trois autres, il y ait des gens qui s'y connaissent assurément, mais je pense que son passé diplomatique, même si elle ne connaît pas nécessairement le sport, je pense que c'était quand même une
bonne. Ouais, mais tu sais, moi, si je peux juste compléter rapidement, j'ai vraiment l'impression que c'est comme un move stratégique pour, un, redorer l'image de la Fédé, parce que qu'est-ce qui s'est passé, c'est absolument atroce, et de deux, éviter que ce genre de choses-là se reproduisent. C'est-à-dire qu'en allant chercher une femme comme Michael Jean, qui a vraiment un bagage d'une femme absolument incroyable, je pense que ça va aider à ce que ce genre de situation-là ne se reproduise plus.
Effectivement. Johan, des débuts un peu mitigés, un peu décevants pour l'équipe de hockey féminine de Toronto?
Oui, un petit peu décevant, mais encore là, bon, c'est les débuts. C'est une équipe d'expansion, donc faut pas s'attendre non plus à ce qu'ils dominent la ligue tout de suite. On va résumer un petit peu parce que là, il y a probablement certains de nos auditeurs et auditrices qui se demandent de quoi je parle. On parle du Toronto Six, qui est la nouvelle équipe d'expansion dans la NWHL, qui est la National Women's Hockey League, donc la Ligue nationale de hockey féminin. On va faire un petit retour en arrière là, parce qu'on se souvient, en mars 2019, il avait été annoncé que la Ligue canadienne de hockey féminin cessait ses opérations, là, la Ligue qui comportait notamment les Canadiennes de Montréal. Et ben, depuis ce temps-là, il y avait des rumeurs comme quoi la Ligue nationale féminine avait des plans d'instaurer des équipes d'expansion, notamment à Toronto et à Montréal, pour ouvrir le marché canadien et rapatrier les joueuses de la Ligue canadienne de hockey qui se retrouvent maintenant sans équipe et sans emploi. Bon, il y a eu toute la saga ensuite là, des salaires puis des assurances qui a fait qu'il y a à peu près 200 joueuses là, qui ont décidé de ne pas joindre la Ligue. Mais le mouvement pour l'équipe d'expansion est allé de l'avant et c'est cette saison, en fait, que le Toronto Six faisait son entrée dans la Ligue. Par contre, la saison est un petit peu là, différente de d'habitude. Normalement, la saison là, de la Ligue nationale s'étend sur 60 matchs. Donc, il y a 60 matchs dans l'année. Cette saison, en raison de la COVID, ben, on a repoussé le début de la saison jusqu'à ben, la semaine dernière, en fait. Et initialement, là, ça avait été repoussé jusqu'au mois de novembre. Là, ça a été repoussé encore une fois en janvier. Et c'est une saison de 15 matchs. Et 15 matchs, c'est pas chaque équipe joue 15 matchs. Chaque équipe en joue 5.
Pardon?
Un total de 15 matchs. Donc, la saison régulière, c'est 5 matchs. Ensuite, il va y avoir un tournoi à la ronde entre toutes les équipes. Donc, elles vont toutes s'affronter une fois. Et ensuite, ça va être les séries éliminatoires, donc ce qui est la Coupe Isobel. Et comme tu l'as dit, ben là, le Toronto Six faisait ses débuts pas plus tard que la fin de semaine dernière. Et le premier match, en fait, s'est soldé par une défaite de 3-0 contre les Metropolitan Riveters, qui est une équipe basée au New Jersey. Et le deuxième match, en fait, ce que je ne savais pas parce que je n'étais pas au courant du calendrier, mais c'est hier, en fait, la Journée internationale du sport féminin. On salue d'ailleurs l'article du collègue Tristan Max, son top 25 des femmes dans le sport québécois, qui a très bien paru sur les réseaux sociaux. Mais oui, donc un résultat un petit peu plus intéressant là, pour les... pour le Toronto Six, qui est allé, encore une fois, perdre, mais cette fois 6-5, une défaite en tir de barrage. Donc, vraiment, là, beaucoup plus respectable comme deuxième match que le premier. Et, ben, fait intéressant, on a quand même là, deux joueuses parmi le top 5 des pointeuses de la Ligue en ce moment. Bon, c'est sûr que la meilleure pointeuse a 3 points, mais Toronto a deux joueuses, là, donc Brooke Boquist, et Emma Woods qui ont toutes les deux points. On a également Brian Wilson-Bennett également à 3 points. Là. Donc, 3 joueuses parmi le top 5 des pointeurs de la Ligue après 2 matchs. C'est pas rien, mais toujours aucune victoire pour le Toronto Six.
Avec une saison écourtée comme celle-là, deux défaites d'entrée de jeu, c'est...
Ça fait mal.
Oui, effectivement. Donc, on va suivre ça quand même avec intérêt cette saison qui, oh mon Dieu, mais c'est tellement... C'est tellement court, mieux vaut bon, en avoir un peu que pas en avoir du tout, mais tout de même, là, c'est très, très, très court. Vincent, j'essaie de comprendre. On a toutes des petites phrases, là, des petites nouvelles pour l'émission. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui a été écrit, mais qu'est-ce qui se passe avec les Clippers et les Lakers?
Ben, en fait, c'est moins sur les Clippers et les Lakers, c'est plus sur le Jazz et les Nuggets.
Okay.
Puis je vais commencer par vous poser une question à vous. Est-ce que vous préférez des équipes qui construisent leur personnel, des équipes qui se construisent en allant chercher des agents libres ou des équipes qui font ça selon la formule traditionnelle en repêchant bien leurs joueurs? Quelle est votre préférence là-dedans, messieurs?
Je peux commencer?
Of course.
Bon, moi, les équipes qui achètent des championnats, j'haïs ça. Puis c'est la raison pour laquelle je suis vraiment pas un fan des Yankees de New York au baseball, ni des Red Sox de Boston. C'est tout ce que j'ai à dire. aller chercher un agent libre pour t'aider,
fine, go for it, c'est bon. Ça,
mais bâtir une équipe avec des agents libres, non.
Puis Étienne, puis Pierre-Luc?
C'est triché.
Moi, je... comment?
Vas-y, je sais exactement ce que tu t'en vas avec ça, mais vas-y.
Non, mais moi, je vais dire que si les règles du jeu sont là, ce serait bête de en profiter.
Ah! Intéressant. Je pensais que tu allais dire, justement, que tu préfères les équipes qui sont construites à partir de presque rien, hein, parlant de Leicester City. Je pensais que c'était ce que tu
allais dire. Oui, oui, non, mais les règles sont là. Donc, avec les moyens également, là, ça, des fois, c'est assez inégal également aussi.
C'est ça. Moi, l'affaire, c'est que moi, je suis de la même opinion que Johan. Et ce qui est intéressant dans la conférence de l'Ouest de la NBA cette année, c'est que on va arriver éventuellement à un choc de ces deux mentalités-là. Parce que donc, d'un côté, on a les Lakers et les Clippers, les deux équipes de Los Angeles, qui sont deux des équipes les plus riches dans l'NBA, qui peuvent se permettre de payer la taxe sur le plafond salarial et le font à tous les ans. Eux n'ont pas construit leur équipe avec le repêchage. Ils sont allés chercher LeBron James et Anthony Davis d'un côté. De l'autre côté, ils sont allés chercher Kawhi Leonard et Paul George. Donc, leurs équipes ont été construites avec des agents libres. Et pour l'instant, ils sont numéro 1 et numéro 2 dans l'Ouest. Numéro 3 et numéro 5 sont les équipes de Utah, le Jazz, et l'équipe de Denver, les Nuggets. Ces équipes-là qui ont moins d'argent, qui ne peuvent pas se permettre de payer la taxe de luxe sur le plafond salarial. Ces équipes-là, ça fait des années qu'elles repêchent extrêmement bien. Et leurs meilleurs joueurs, soit Donovan Mitchell et Rudy Gobert pour le Jazz, Michael Porter Jr., Nikola Jokic et Jamal Murray, un Canadien, pour les Nuggets, sont tous des joueurs qui ont été construits et repêchés par l'équipe auquel ils appartiennent en ce moment. Et je trouve ça très, très, très intéressant parce que à mon grand désarroi et à mon grand malheur, l'année passée, ces équipes-là ont perdu contre les Lakers et se sont fait varloper par LeBron et Anthony Davis. Ça va arriver encore cette année. Ces quatre équipes-là vont sûrement d'une combinaison ou d'une autre se rencontrer dans les séries éliminatoires. Ça va être extrêmement intéressant et je pense qu'on a tous bien hâte de voir ça. Et je pense que Johan, comme moi, va avoir les doigts croisés pour que ce soit les équipes des petits marchés qui l'emportent contre les équipes de grands marchés qui ont acheté leurs joueurs.
Ben, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, même malgré tout ça, pour LeBron, pour l'histoire avec Kobe, j'étais quand même très content pour les Lakers l'année dernière. Mais là, la lune de miel est terminée. Là, puis Denver, j'ai un petit faible pour eux, là. Notamment en raison de Jamal Murray, mais Jokic aussi est vraiment...
Moi, j'ai un faible pour Denver parce que Jokic est le meilleur centre. C'est le centre avec la meilleure vision du jeu de l'histoire de la NBA. On n'a pas vu un centre faire des passes comme Nikola Jokic depuis Kevin McHale pour les Celtics dans les années 80. C'est absolument incroyable. Il fait un gars de 7 pieds ne devrait pas être capable de faire les passes qu'il fait à tous les soirs. C'est extrêmement impressionnant. Et la clé pour les Nuggets de Denver, en fait, cette saison, ça va être le développement de leur joueur Michael Porter Jr., qui en est dans sa troisième année, mais qui a manqué sa première année au complet à cause d'une blessure au dos. Ça, des blessures au dos, c'est jamais un très bon signe encourageant pour des joueurs aussi jeunes que lui. Donc, on se croise les doigts, puis on espère qu'il va continuer son développement parce que cette année, je pense que sa moyenne de points à Porter Jr., c'est 16,5 avec 7,5 rebonds par match. Et ils vont avoir besoin de toute cette contribution de sa part pour pouvoir espérer être un challenge pour les équipes de Los Angeles.
Une autre ligue qui, malgré ses règlements et ses apparences de parité, reste une ligue où on peut quand même profiter des règles à son avantage et quand on a de l'argent, on peut quand même s'en tirer pas si mal. Ben, c'est la MLS et j'ai vu ça passer aujourd'hui. La MLS qui dévoile son calendrier ou son plan pour la saison 2021.
Ouais, ben c'est sorti plutôt lundi soir, en fait, lundi après-midi. Oh, ouais. Ben techniquement on est lundi quand on enregistre, fait que
oui,
c'est
oui,
correct.
Oui, oui.
Mais Oui, c'est ça. C'est hier. Bon. Ben oui, les informations sont sorties. Est-ce que c'est officiel? Il y a encore des choses à travailler pour la MLS. On va en parler dans quelques instants, mais je vais quand même vous amener faire un petit tour d'horizon, sur à quoi va ressembler cette saison. Fait comme d'habitude, on a quand même une saison de 34 matchs, si tout va bien. Parce que là, c'est important de mentionner si tout va bien avec la COVID. Surtout aux États-Unis, c'est assez intense présentement. Donc, le 22 février, ben, ça va être le début de la préparation de la MLS. Fait que ça va être 6 semaines. Donc, ça va être les camps d'entraînement et tout ça. Puis, évidemment, là, les joueurs devront faire une quarantaine avant de rejoindre leur équipe et pendant qu'ils sont là. Donc, ils vont rejoindre. Je ne sais pas trop exactement comment que ça marche. Il n'y a pas trop de détails là-dessus. Mais normalement, ils vont être ensemble dans un hôtel. Puis après ça, ils vont pouvoir aller pratiquer. Mais ils vont devoir comme rester ensemble pour éviter de apporter le virus, comme que ça se passe avec les Capitals de Washington, avec les 4 joueurs qui n'ont pas respecté les règles. Donc, à ne pas faire. Ensuite, donc le début de la saison, ça va être le 3 avril, le 3 et le 4 avril. En fait, donc, ça va être la première journée du championnat. On ne connaît pas encore qui va jouer contre qui. Ensuite, à la fin du mois d'août, je pense que c'est la semaine la plus intéressante, là. Écoutez, ça va être la semaine de la rivalité en MLS, donc ça va être super le fun. Donc, une première rivalité qui va apparaître pour Toronto FC, ce sera contre Club de foot Montréal. À ce qui paraît, ça va être super bon. Oui. Et puis, voilà, puis quelques semaines après, ça va être le match des étoiles. Et puis ensuite, le 7 novembre, c'est le jour décisif de la MLS. Le 19 novembre, ce sera le début des séries éliminatoires. Et le 11 décembre, ce sera la Coupe MLS 2021. Oui, vas-y Étienne, je pense que tu veux dire quelque chose.
Non, mais je me disais, avec tout le tralala qu'on a entendu sur le club de foot de Montréal, à un moment donné, je me suis demandé s'il y avait un calendrier. On a beau parler et tout, mais s'il n'y a pas de match pour jouer, je trouvais que bon, on en faisait peut-être un peu pour rien.
Tu m'amènes directement à mon prochain point qui est, on ne sait pas ce qui va se passer avec les 3 clubs canadiens présentement. Il y a des restrictions avec les États-Unis, avec les quarantaines quand on voyage, même chose au Canada. Est-ce que les clubs canadiens vont pouvoir aller aux États-Unis? On ne le sait pas encore. Puis c'est ça que la MLS dit dans son communiqué, c'est qu'il va falloir qu'ils travaillent avec ces équipes-là pour la saison régulière. Parce que, je vais être honnête, je vois mal l'Impact jouer 34 matchs contre Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver. Ça ne fera pas. Ça va vraiment être lourd. Puis je pense qu'il n'y a personne qui veut ça ici, là.
Ouais. J'espère juste qu'ils vont pas nous gosser des calendriers comme ils ont fait l'année dernière là, avec comme. Puis je comprends que bon, tout le monde s'est fait prendre par la pandémie, puis en plus tu as 3 clubs canadiens qui jouent dans une ligue américaine qui est basée aux États-Unis. J'espère juste qu'ils vont pas nous gosser des calendriers aux 6 matchs comme ils ont fait. Tu sais, il y a eu le tournoi. Même après le tournoi, on savait pas qu'est-ce qu'on faisait. Donc on a racheté un 6 matchs. Après ça, on a racheté un 6 matchs avec les équipes canadiennes seulement. Après ça, on a racheté. J'espère au moins qu'on a un calendrier qui est comme coulé dans le béton le plus possible, puis qu'on va essayer de le respecter parce que c'était un peu lourdeau l'année dernière, la saison MLS.
Ouais, c'était lourdeau. Fait que on espère que ça se reproduise pas du tout.
Oui, ben puis tu sais, c'est sûr qu'on aimerait ça qu'on ait une saison normale puis que tout se passe très bien, mais malheureusement
ça n'arrivera pas.
Plus compliqué que ça. Je vous amène sur l'UFC 257. C'était la première télé à la carte organisée par l'UFC. C'était samedi dernier et puis bon, Dustin Poirier affrontait Conor McGregor et quand Conor McGregor est sur une carte, l'UFC a tendance à faire une carte de merde parce que tout le monde va acheter le pay-per-view quand même parce que Conor McGregor est là. Avec tout le respect que je lui dois, Joanne Calderwood ne devrait jamais, jamais, jamais se retrouver comme 3e combat dans une carte que les gens payent 60-70$. Pourtant, c'était le cas. On a eu un début de carte qui était un peu... qui, moi, remplissait mes attentes, honnêtement. Là, donc, pas de grande surprise, pas de grand spectacle, mis à part peut-être la victoire de Marina Rodriguez sur Amanda Ribas. Au début, les deux femmes ont vraiment délivré. Et moi, le combat qui sportivement m'intéressait le plus, c'était Michael Chandler qui affrontait Dan Hooker. Parce que Michael Chandler, c'est une légende du Bellator, qui est comme la 2e organisation d'arts martiaux mixtes sous l'UFC. Et ça fait 10 ans qu'il était dans le Bellator. Il a été champion de maintes et maintes fois. C'est un des plus grands de l'histoire des poids légers. Et il s'amenait avec l'UFC. Donc, on veut tout le temps savoir c'est quoi la différence de niveau, s'il va être capable de tenir la cadence. Parce que, bon, il y a vraiment un écart de niveau clair entre le Bellator et l'UFC. Mais Michael Chandler a ses défaits de son adversaire Dan Hooker en 2 minutes 30 seulement. Donc, quand même une démonstration de force de la part de l'ancien champion du Bellator qui montre qu'il appartient à l'élite des poids légers de l'UFC. Donc ça, c'était quand même très, très, très bien. Ça m'a vraiment surpris.
Mais là, Étienne, tu t'en sauveras pas. Là. Je sais que la semaine dernière, tu as dit essentiellement que tu n'avais pas d'intérêt pour ce combat-là. Mais tu n'as pas le choix d'en parler quand même. Dustin Poirier, Conor McGregor, la fin, c'était pas vraiment ce à quoi la majorité du monde s'attendait. S'il y avait une fin qui a peut-être surpris un petit peu les gens, c'était un KO technique par Poirier aussi rapidement que ça.
Depuis 2016, Conor McGregor a 3 victoires et 3 défaites. Et je ne parle pas de sa petite niaiserie en boxe contre Floyd Mayweather. En arts martiaux mix, Conor McGregor a 3 victoires et 3 défaites à ses 6 derniers combats. Je comprends pas comment les gens pouvaient s'attendre à autre chose qu'une contre-performance de la sorte de Conor McGregor qui ne travaille tout simplement plus. Je ne sais pas si vous avez réussi à voir la fin du combat. Poirier, la première ronde, a fait à croire à McGregor qui pouvait encore être dans le coup. McGregor n'a rien proposé. Pendant ce temps-là, Poirier a juste bûché la jambe dominante de McGregor qui met énormément de poids sur sa jambe. Quand Poirier a senti que McGregor était plus là, que le dernier coup à la jambe était de trop, ben Poirier a juste augmenté la cadence et a mis KO Conor McGregor pour la première fois de sa carrière. L'Irlandais s'est fait passer le KO en arts martiaux mix parce que c'est arrivé aussi en boxe là, contre Floyd Mayweather. Mais voilà, je crois qu'on va se calmer un peu à partir de maintenant sur Conor McGregor. J'espère, parce que ce gars-là a un grand talent, mais il ne travaille plus. On voit que Poirier, lui, continue. Pendant que McGregor combat une fois par année comme il veut, il fait des money fights où il va faire beaucoup d'argent. On avait de l'autre côté l'Américain qui travaille énormément. Donc voilà, j'apprécie pas nécessairement le personnage. Je crois que c'est un gars qui est très intelligent, qui sait se vendre, mais là, je crois qu'il a atteint ses limites face à Dustin Poirier. Vincent.
Je pense que quelque chose comme 90% des paris à Vegas étaient justement sur McGregor.
J'ai failli mettre de l'argent sur Poirier. Hein.
T'aurais été plus intelligent que la population en général. Mais pour la population en général, c'est un gros upset. Fait que moi aussi, je vais te mettre on the spot, puis je vais te poser la question, je vais te demander de mettre en ordre les plus grands upsets entre celui-ci, McGregor qui se fait battre par Poirier, Trump qui bat Hillary, ou la petite sirène qui réussit à briser le sort de la pieuvre Ursula puis à séduire le prince charmant Eric.
Hey, moi, je pensais que tu allais me dire, je pensais que tu voulais que je classe mes 3 upsets pour vrai. Là. Genre,
j'étais pris. C'est des vrais upsets, je suis les 3 plus gros upsets au
cours de ouf.
Je voulais mes upsets de UFC, j'étais prêt, j'étais convoqué.
Lui. Gros upsets. Mais pour vrai, est-ce que c'est right up there avec les gros upsets dont tu peux te souvenir?
Non. C'est même pas proche des gros upsets. Tu sais. Vas-y, Yann.
Ben moi, j'ai quasiment le goût de dire que c'est pas un upset. Là. Je veux dire, même moi, je suis pas particulièrement les arts martiaux mix, mais si j'avais eu à parier sur quelqu'un, c'était Poirier à 100 000 à l'heure.
Là, après ça, j'ai dit que c'était sûr que Conor allait perdre. Là. Je veux juste rétro-pédaler un peu. C'était pas sûr que Conor avait quand même ses chances. Je veux pas faire le gars qui le savait tant que ça non plus. Là. Bon, Conor avait quand même ses chances. Si j'avais à mettre de l'argent, bien évidemment, parce que j'en aurais pas fait avec McGregor, j'en aurais mis sur Poirier assurément. Mais tu sais, dans l'optique où c'est pas un combat de championnat non plus, personne n'a mérité d'aller chercher ce fight-là. Tu mets deux gars qui s'étaient déjà battus. Sûr que McGregor, à l'époque, avait marché sur Poirier et qui n'était pas aussi solide qu'il l'est présentement. Donc, de mettre les deux comme ça, moi, je pense que c'était un match-up qui était relativement égal. Sûr que oui, les bookmakers, ils avaient mis McGregor largement favori avec raison. Mais en tant qu'upset, non, c'est pas un. si gros upset que ça. Par upset, dès que on s'en va à l'encontre des bookmakers, je considère que c'est un upset. Donc oui, on va dire que la victoire de Poirier en est un, mais on n'est pas dans le top 10 des plus grandes surprises de l'UFC. Là. Loin de là. Donc voilà, McGregor qui perd son combat face à Dustin Poirier. Et juste pour terminer, la catégorie des poids légers est dans un bordel pas croyable avec les deux matchs qu'on a eus, Michael Chandler et Dustin Poirier qui gagnent. Tu rajoutes à ça Charles Oliveira qui a fait une grosse performance le mois dernier contre Tony Ferguson et Khabib qui veut lâcher sa ceinture, mais l'UFC veut pas qu'il lâche sa ceinture. Donc là, on se retrouve avec une valse à trois prétendants pour aller chercher le titre de Khabib. Khabib qui peut-être une quatrième qui vient. Fait qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer, mais ça va être vraiment intéressant de voir la suite dans cette catégorie-là des poids légers de l'UFC qui est tout le temps, historiquement, c'est impressionnant. On a le temps pour d'autres petites nouvelles. Je m'attendais à ce qu'on parle de plein de sujets dans la Ligue nationale de hockey. On n'en a pas parlé beaucoup, voire pas du tout. Effectivement, on peut parler d'autres choses également, mais cette histoire-là m'intrigue. Johan, qu'est-ce qui se passe avec le directeur général de 12 ans des Coyotes de l'Arizona?
Ben, écoute, tu disais que la catégorie des poids légers de l'UFC était un bordel. Je pense que les Coyotes de l'Arizona peuvent battre ça à plat de couture. C'est une honte ce qui se passe en ce moment avec les Coyotes, rien de moins. Premièrement, bon, John Chayka n'est plus le directeur général des Coyotes là, depuis quelques mois, depuis qu'il a démissionné.
Oui.
Et là, c'est là que ça devient compliqué. Pourquoi? Qu'on se souvient que les Coyotes, l'an dernier, ont exécuté une série de tests physiques illégaux avec les espoirs du repêchage et ont été sanctionnés pour ça. Là. Donc, ils ont perdu leur choix de deuxième tour au dernier repêchage et leur choix de premier tour du prochain. Et ça, Chayka avait été impliqué là-dedans un petit peu, pointé du doigt certainement. Et là, bon, ça a continué. John Chayka, depuis qu'il est arrivé...
Qu'est-ce que tu veux dire par test illégaux?
Bon, chaque année, avant le repêchage, il y a ce qu'on appelle le combine, donc une série de tests physiques. Okay. Mais les Coyotes en ont fait un autre secrètement en Europe pour pouvoir tester sur d'autres affaires.
OK, my bad. Parce que quand quelqu'un de nos jours parle de test illégal ou de quelque chose ultra illégal... Moi, j'ai des pensées ténébreuses, puis je pense à Michigan State, puis je pense à des trucs pas trop cochés, ma dad.
Non. Donc, c'est ça. Et depuis, en fait, John Chayka, quand il était arrivé, c'était parce que c'était un gourou des stats avancés qui était supposé améliorer l'équipe d'un point de vue complètement nouveau, un peu comme Billy Bean et Moneyball. Il a fait absolument tout le contraire. Là. Je veux dire, les Coyotes ont été intéressants pendant une saison. Le reste des transactions et des signatures qu'il a fait d'un point de vue analytique, ça se comprenait pas, en fait. Puis on rappelle également que le premier choix qui a été utilisé par les Coyotes au dernier repêchage, c'était Mitchell Miller, qui était le gars qui avait physiquement abusé et verbalement abusé d'un jeune homme noir qui était handicapé mentalement lors de son parcours au secondaire.
Oui.
Donc, bref, il n'y a rien qui va pour les Coyotes. Et là, en plus de ça, ben, John Chayka décide qu'il quitte l'équipe. Il essaye de mettre fin à son contrat alors qu'il en restait encore quelques années. La chicane pogne, désolé le mot, avec les Coyotes, John Chayka et les Devils du New Jersey qui sont en conversation avec lui pour supposément le voler aux Coyotes. Bref, John Chayka se fait pointer du doigt par tout le monde, les Coyotes aussi, abandonne son équipe tout juste avant le repêchage et le scandale entourant Mitchell Miller. Et finalement, aujourd'hui même, la Ligue nationale a décidé de le sanctionner. Il a donc été suspendu jusqu'au 31 décembre pour conduite ayant été à l'encontre des intérêts généraux de la Ligue. Essentiellement, là, si je peux le traduire en français, là, ce serait un petit peu ça. Là. Donc, porter atteinte à la réputation de la Ligue par sa conduite un petit peu. C'est essentiellement ça qui a été évoqué comme décision. Et donc, il est banni là, de tout. Genre, il ne peut pas être proche, parler avec des équipes, avoir des décisions, peu importe, n'importe quoi de la Ligue nationale de hockey jusqu'en 2022.
Oui, quand même particulier, mais au moins il va pouvoir se rabattre sur les 12 Wendy's que lui et sa femme détiennent, en fait. Donc,
Il est mieux parce que je peux vous garantir que les chances qu'il se retrouve du travail dans la LNH sont absolument nulles. Ça va
être compliqué. Il ira jaser avec notre ami Mike Babcock. Et en terminant, PL, demain, c'est un triste anniversaire pour le monde du sport, je dirais même. Le monde du basketball et même le monde du sport, je te laisse le mentionner.
Ouais, pour le monde du sport en général, puis je pense que, écoutez, quand vous écoutez ça, on est le 26 janvier 2021, donc ça fait un an officiellement que le célèbre joueur de basketball Kobe Bryant est décédé. On se souvient, là, c'était un triste accident d'hélicoptère qui est très malheureux. Et puis, bon, un an déjà, c'est un accident qui va avoir mal gravé, pas juste la communauté partisane de basketball, mais vraiment toute la planète entière, que ce soit dans le monde du soccer en Europe, que ce soit n'importe où au Canada, partout. On en a parlé longtemps et puis je pense que beaucoup vont être d'accord pour dire que ça a été un des premiers événements tristes de l'année 2020. Puis c'est très malheureux qu'est-ce qui s'est passé. Puis bon, c'est un an déjà. La vie est faite ainsi, malheureusement. Mm-hmm.
Les commémorations suivront assurément c'est... demain. Oui, Vincent?
C'est le genre d'événement où tu te souviens exactement où tu étais quand tu l'as appris. Comme je me souviens que pour le 11 septembre, j'étais en classe. Je me souviens que pour Kobe, j'étais en train de promener mes chiens. Je me souviens que quand j'ai appris que Taylor Swift avait un chum, je venais de me réveiller. Tu sais, c'est le genre de choses que tu te souviens également, puis ça va te marquer à vie parce que l'émotion que tu as encourue, l'émotion que tu as eue quand tu as appris cette nouvelle-là, c'est plus fort que quoi que ce soit d'autre.
Oui, assurément. Puis tu sais, même moi, je suis pas un fan de basket, là, je pense que vous l'aurez compris, mais tu sais, quand tu connais le nom, puis tu sais sommairement la grandeur de la carrière et le talent du joueur, là, on ne peut que saluer et commémorer la mort de Kobe Bryant qui va avoir un an demain. Donc, Yoann Carrière, merci énormément d'avoir passé l'heure avec nous.
Mais merci à toi, Étienne. Bon retour à l'animation et on merci. Va se souhaiter une bonne semaine à tous.
Oui, Vincent, Aurélana, Pépin, merci énormément.
Pierre-Luc,
merci beaucoup.
Merci à toi, mon cher Étienne.
Ben, un grand plaisir. On écoute sur Réception, qui se retrouve en après-midi, les samedis maintenant, à 2h. On écoute Récits sportifs, on va avoir un épisode de cette semaine. Et
l'équitation, ben, c'est quoi? On a enregistré là, l'épisode hier. Là, j'ai raté un petit peu la fenêtre de publication, donc ça va paraître là, dans la journée demain.
D'accord. Et Vincent, rapidement, est-ce que tu veux nous parler de Ligne de mêlée?
Podcast avec notre ami Jérémy Lallier, membre du club école, et avec Siméon Dumont, hopefully un membre du club école rapidement. Mais c'est un podcast où on discute de football, de basket, puis des actualités dans les sports les plus populaires aux États-Unis et au Canada. Puis comme on fait avec vous, les boys, on essaie d'être le plus divertissant possible et le plus instructif possible. Puis on souhaite que vous nous écoutiez, puis on souhaite vous faire rire et vous apprendre quelque chose.
All right. Ben, on écoute tout ce contenu audio sur les plateformes du Club École. On s'en va aussi sur leclubécole.com pour nos articles et encore une fois le Patreon pour nous encourager. Je m'appelle Étienne Boutillier et on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode de Retour en Force.